l'ai découverte à l'église Saint-Jean-Baptiste de Langeais, car elle est la patronne de la paroisse. Et il y a toujours d'ailleurs, son portrait et puis quelques dates biographiques assez sommaires, mais qui m'ont alertée et donné envie de tout de suite partir à la recherche de cet être qui m'intriguait beaucoup.
Justement, qu'est-ce qui vous a intrigué? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous plonger dans son histoire pour en faire un récit?
C'est un petit détail apparemment, mais qui est central dans sa vie, c'est que Bakita n'était pas son prénom. Et surtout que son prénom donné par son père à sa naissance, qu'elle avait porté pendant cette année où elle était dans sa tribu, dans sa famille, ce prénom-là, elle l'avait oublié, à jamais. Et je me suis demandé comment une femme qui avait eu un parcours si exceptionnel, qui avait une telle force d'âme, pouvait avoir oublié son prénom. Est-ce qu'on pouvait avoir une identité aussi forte quand on ne savait plus comment on s'appelait? Et c'est cette question m'a fait partir à la recherche de Bakita.
Alors vous l'avez dit, c'est un parcours exceptionnel de l'enfant volé, violé, de l'esclave à la domestique affranchie, qui a finalement été canonisé. Et pourtant, votre livre, ça n'est pas un drame à happy ending, on va dire. On est vraiment dans le fort intérieur de cette petite fille qui va grandir tout au long de ce roman. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix justement de cette focalisation interne ?
Je voulais qu'il n'y ait que Bakita dans le livre. Bakita traverse plusieurs continents, traverse, on peut dire, même deux siècles, puisqu'elle naît vers 1869 et meurt le 8 février 1947. Mais je voulais que tout ce qui se passe, le djihad, les deux guerres mondiales, l'avènement de Mussolini, l'esclavage, je voulais qu'il n'y ait qu'un filtre, qu'une seule personne au centre de tout ça, que ce soit elle, parce que ce qui m'intéressait, c'était quel est le parcours de cette âme. Donc, il n'y a qu'elle que l'on suit tout le long du roman. C'est le centre de tout.
Et alors, tout passe par ses yeux, sa peau, ses doigts, son odorat. Elle assiste et elle subit évidemment aussi à de multiples violences physiques, à des séparations forcées, à des vexations. Donc, vous nous en rendez témoin. Évidemment, pendant les marches forcées dans le désert, lors de ses mises en vente, quand on lui enlève ses enfants d'adoption, etc. Et pourtant, moi, ce qui m'a frappée, c'est sa capacité de toujours voir la beauté.
Oui, je crois que c'est ce qui l'a sauvée. C'est-à-dire que Bakita, c'est pas seulement un être qui est arrivé à survivre. Bakita, elle incarne vraiment ce mystère de la part irréductible d'humanité chez certains êtres plongés au cœur même de l'inhumanité. Bakita, c'est pas seulement quelqu'un qui survit à la violence, au mauvais traitement, c'est quelqu'un qui va aimer la vie. Elle va protéger sa vie comme un cadeau. Au-delà de l'instinct de survie, il y a ce respect pour tout ce qui vit. Et effectivement, c'est quelqu'un qui aimait voir le jour se lever et la nuit apparaître. C'est quelqu'un qui avait un dialogue intérieur avec l'univers qu'elle nommait Dieu. Et je pense que cette beauté du monde l'a aidé à voir plus loin que l'horreur dans laquelle l'esclavage l'avait plongée.
Il y a une étonnante confiance en la vie et surtout aussi c'est cette capacité pourtant enchaînée à rester libre.
Oui, et je pense que durant les 7 premières années de sa vie, elle a été tellement aimée, elle avait une sœur jumelle, elle avait une structure familiale très forte, elle faisait partie d'une famille qui allait bien, qui était prospère, et je pense que l'amour qu'elle a reçu l'a vraiment a forgé une identité très forte et très structurée, qui lui a permis ensuite non seulement d'affronter le mal, mais de toujours être tournée vers l'altérité, de toujours trouver des repères en l'autre, même si, que ce soit en esclavage et puis d'une façon moindre chez les sœurs, l'attachement n'était pas possible. L'attachement était prohibé et voire en esclavage dangereux. Et malgré ça, je pense que c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, au-delà de tout ce qu'elle pouvait avoir de sensitif, d'instinctif. Je pense qu'elle avait aussi une intelligence très forte qui faisait qu'elle s'adaptait, elle survivait, mais elle restait elle-même. Et elle pouvait donner quelque chose d'elle-même aux autres.
Il y a une scène très marquante dans votre livre. C'est ce jeune homme qui a imprimé dans son regard toute la colère de son peuple et qui va finalement en mourir. Il n'y a pas du tout chez Bakita là de colère, de vengeance ou encore d'agressivité. Au contraire, elle a appris à être méfiante, mais elle est toujours soucieuse de ceux qui souffrent à ses côtés, Bina, sa sœur de chaîne, à la petite fille délaissée par sa mère ou encore aux petits-enfants italiens affamés pendant la guerre.
Parce que je crois qu'elle est toujours tendue vers le flux de la vie qui avance. La vengeance, c'est quelque chose qui prend de l'énergie. Tous les sentiments négatifs prennent énormément d'énergie. Et Bakita, l'énergie qu'elle met à survivre, à vivre tout ce qu'elle faisait, même quand elle était religieuse, elle le faisait à fond. Sacristine, être cuisinière, concierge de l'Institut, parfois on se moquait d'elle pour ça. Elle était d'une présence très forte au monde. Et cette présence-là faisait qu'elle était toujours mue par une espérance. Quand elle était esclave, je vais peut-être retrouver ma sœur, je vais peut-être passer par mon village, demain sera peut-être meilleur, et toujours mue vers qui pouvait être, comme je vous disais tout à l'heure, dans l'altérité, ce qui fait qu'elle s'est occupée des enfants pauvres, des enfants délaissés, qu'elle a finalement soigné à travers ses enfants, ses orphelines en Italie, peut-être les esclaves qui n'ont pas été sauvés tout autour d'elle au Soudan. Et elle n'était jamais, je crois qu'elle n'avait pas de temps à perdre avec les sentiments négatifs.
Vous l'avez dit, on la moque parfois, la Moretta, parce qu'elle n'a pas les mots, elle est incapable de formuler des propos très construits. Et pourtant, si certains la moquent, finalement, elle a touché énormément de cœurs, à commencer par ceux qui partageaient son quotidien en Italie.
Oui, les sœurs témoignent que il suffisait d'être quelques minutes en sa présence pour ressentir une énergie très forte. Je pense que c'est quelqu'un qui avait une aura particulière. Alors après, on a dit qu'elle soignait, qu'elle avait des visions. Bon, ça, je pense que c'est peut-être aussi subjectif, je n'en sais rien. Mais je crois qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui avait un pouvoir d'apaisement, voire de guérison, qui savait poser sa main sur un front, prendre quelqu'un contre elle, et qu'il se dégageait effectivement d'elle quelque chose de très fort. Elle me fait penser finalement à comme une cellule ou un noyau, un atome plein de lumière, et il y avait comme ça une réflexion. Mais ça, il ne faut pas oublier que ça vient après un rejet de beaucoup de personnes en Italie du fait de sa couleur. Elle a d'abord été accueillie par un racisme d'ignorance, une terreur d'ignorance qu'elle a dû subir et puis apprivoiser. Et puis voilà, les gens en Italie sont venus à elle, certains, parce qu'elle a croisé aussi de vrais justes, mais la majorité sont venus à elle un peu comme si elle les avait apprivoisés et humanisés.
Est-ce que finalement pour vous, Bakita, c'est une active, une contemplative ou une mystique ?
Je crois que c'est un fort mélange. C'est ça qui est merveilleux dans cet être si complexe. C'est que quand Bakita choisit de rentrer dans les ordres des canossiennes, alors que affranchie, elle aurait pu choisir de vivre chez Stefano, cet homme comme il le lui propose, dont elle est la fille au même titre que ses nombreux enfants, elle aurait pu passer sa vie paisiblement à Zianigo, dans une famille. Et elle a choisi de se confronter au monde, c'est-à-dire d'être dans un ordre qui est très très actif, donc l'ordre des canossiennes. Et les témoignages rapportent qu'elle était toujours en train, quand on la croisait, de réciter un rosaire, un chapelet, qu'elle priait beaucoup, qu'elle s'adressait très souvent à Dieu. Et puis encore une fois, il y a ces dialogues quotidiens avec la nuit. Et donc je pense que c'était un être traversé par des courants qui faisaient qu'elle était complexe et complète.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire ce livre au présent ?
Eh bien, j'ai d'abord écrit ce livre au passé, à la première personne, ensuite au passé avec un narrateur extérieur, puis je me suis rendu compte que l'esclavage, c'était le temps du présent, parce que l'esclavage, c'est ce qui advient. Et c'est une forme de surprise permanente qui fait qu'on doit être sur ses gardes, qu'on doit être aux aguets et surtout dans l'instant, c'est-à-dire survivre à chaque instant qui est toujours une violence. Et de plus, l'esclavage ne permet pas de trop penser au passé, tout ce qu'on a perdu, ni de trop se projeter dans l'avenir parce que ça peut décourager. L'esclavage de plus, hélas, est pérenne. Et Bakita, elle est présente aujourd'hui, comme elle l'était hier. C'est une petite fille arrachée aux siens, c'est une petite fille qui est avec ce peuple des esclaves qui marche, qui a tout perdu, qui ne sait pas où il va, qui est maltraité et qui avance. C'est étrange que Bakita ne soit pas son prénom de naissance, mais que Bakita soit finalement devenu un prénom emblématique de toutes ces petites filles hier et aujourd'hui.
Vous avez dédié, je crois, 2 ans de votre vie à Bakita au cours de l'écriture. Qu'est-ce qu'elle vous laisse en héritage ?
Elle me laisse une force, pas seulement une leçon de force, une force qui m'a traversée vraiment. En travaillant sur elle, en partant à sa recherche, en allant sur les lieux. Et elle m'a redonné la conscience du privilège qu'était ma vie et surtout de dire chaque jour merci pour chaque journée écoulée, parce que moi, je suis née du bon côté.